Eh oui, on en jase le midi, les amis. Émission d'actualité sur ton heure de dîner. On adore jaser avec vous. Il est présentement midi. Merci, c'est super gentil. Un auditeur ou une auditrice, puis je viens de lui demander justement quel était son nom qui écrit. Savez-vous quoi? Vous êtes sa coche. Eh, hey, dommage le fun. C'est gentil, ça. Les bons compliments, on en prend tout le temps. Mais si vous avez des commentaires d'amélioration également, envoyez-nous-en 418-971-1021. On aime toujours ça quand vous réagissez, vous le savez. On lit énormément de textos dans l'émission. On en jase. D'ailleurs, hier, Félix, là, et là, ça me permet de te saluer. Salut, Antonine Iaccarini.
Salut.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, ça va super bien. Félix, hier, Antoine nous a envoyé une suggestion, puis tu m'avais déjà proposé cette idée-là en disant « Hey, c'est le fun, vous lisez des textos, mais là, Jeff, ça serait le fun qu'on fasse une période de questions des auditeurs. »
C'est pas arrangé avec le gars des vues, on se connaît pas, moi, puis Félix. Puis ouais, en fait, on voulait vous proposer, si vous avez des questions, n'importe quoi. Ça peut être sur les sujets dont on parle aujourd'hui, oui. Sujet du jour, mais ça peut être des questions aussi sur la politique en général. Comment ça fonctionne aussi dans les coulisses, c'est des éléments qu'on peut aborder ensemble. Il n'y a pas de questions niaiseuses, comme on dit.
Du tout.
Puis de toute façon, c'est assez rare qu'on dit des niaiseries quand on parle de politique ici. On est tous des mordus de politique, donc si vous avez des questions, envoyez-nous-les.
Voilà. Exactement. Et demain, on va faire une période de questions des auditeurs. Donc, 418-971-1021. Vous avez des questions sur la politique, vous avez des questions sur l'actualité. Allez-y, shootez-nous ça. Demain, on se fait une 15 minutes période de questions des auditeurs dans le caucus Iaccarini. C'est certain qu'on fait ça. Puis si tu parles de politiciens, là, on vous parlera pas que Sam Hamad en cachette travaille pour Bruno Marchand à le faire réélire. Là.
Non,
ça existe pas, ça.
Les complots?
Ouais, ça existe.
T'aimes pas ça, les complots?
Ben non, mais là, ça, je suis tombé là-dessus hier sur les réseaux sociaux, puis je me suis dit, ok, c'est... Pourquoi on en est rendu là?
Ouais, pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, là, c'est vrai qu'il y a une division du vote en ce moment. T'sais, pour vrai, quand je regarde un peu la dynamique politique, tu te dis, c'est vrai que Bruno Marchand, il y a quelques mois, on se disait, ouh, tu sais, Sam Hamad pourrait le battre, etc. Mais là, on a l'impression que la division des opposants fait en sorte que finalement, ça avantage Bruno Marchand. Est-ce que c'est un grand complot organisé?
Non, non, t'es là, ben, c'est là, un complot organisé parce que Sam Hamad a des amis qui sont entrepreneurs qui vont construire des logements autour du tramway. Fait que là, Hamad s'est juste présenté pour faire en sorte que Marchand passe, ça soit pas la chance. T'es partisan de Respect citoyen, je vous admire. Puis honnêtement, Stéphane Lachance fait une super bonne campagne électorale. Il m'étonne par son aplomb et sa façon de communiquer positivement. Mais il n'y a pas de complot là, entre Sam Hamad, Bruno Marchand,
les entrepreneurs. Toujours par rapport au complot.
Vas-y donc.
C'est que je pense que les gens surestiment le niveau d'organisation des politiciens.
Oui.
OK, parce que pour faire un complot, il faut que tout soit bien organisé, puis ça se fait pas sur le coin de la table. Je vous dirais que je veux pas vous décevoir, mais c'est pas de même, ça marche.
Non, puis un bon exemple à ça, c'est que Sam Hamad, pas mal certain que quand il y repense, il aurait sorti son programme, qui fait bien du sens, puis on va en parler dans quelques minutes.
Absolument.
Il aurait sorti avant, ce programme-là. Et il l'a pas fait parce qu'il veut que Bruno Marchand passe.
Exact, exact.
C'est ça. Il l'a fait parce qu'il a fait assurément une erreur stratégique. Mais bon, il essaie de se rattraper. Ça fait partie de la vie. Mathias Turcotte, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Hier, super belle soirée au Centre Vidéotron. Match d'hockey.
Il y a eu de la bagarre!
Ah, c'est... ça brasse.
Ça arrêtait pas. De la bagarre entre les sénateurs et le Canadien.
Ah, c'était fourette. Tu t'attends pas à ça durant un match préparatoire. Puis, on a eu un spectacle hier. Moi, je dis souvent, un match préparatoire, il n'y a pas d'enjeu. Hier, que le Canadien gagnait ou pas, on voulait avoir un bon match, on voulait être diverti. Fait que même si on n'a pas eu un match serré, même si ça finit 5-0, je pense que tout le monde qui était présent dans l'aréna hier va s'entendre pour dire on en a eu un spectacle, on a été diverti.
Exactement. 5 buts pour le Canadien, donc les gens étaient heureux. Puis à la fin, vers la fin de l'émission, on va vous faire un petit micro, justement. Préparez-vous si jamais vous voulez réagir. Si les Nordiques reviennent, ce qui n'arrivera pas, mais c'est pas grave. Mettons, là, on se met dans le rêve des Nordiques. Hey, tu sais que moi, en secondaire 5, j'ai loafé des cours pour aller faire la marche bleue pour garder les Nordiques à Québec.
Oh, la
alors que
bleue.
Jacques Parizeau avait dit « Non, je financerai pas pour un nouvel amphithéâtre. » Et là, quand Régis Labombe est revenu avec Jean Charest pour financer le nouvel amphithéâtre, j'étais assez pleine avec mes gars avec des gilets bleus. On veut nos Nordiques.
Mais Jean, puis t'avais raison. Quelle année triste. Ah. Moi, j'étais pas en secondaire 5, par exemple.
95.
Mais...
Référendum mais... perdu.
Hey, quelle mauvaise année, comme dirait l'ancienne reine d'Angleterre, Elisabeth II, Anus Horribilis. Ouais.
Vois-tu, Félix, justement, qui nous avait fait la suggestion, il disait hey, « je m'intéresse de plus en plus à la politique parce que vous rendez des sujets intéressants. » Ben, merci, Félix. Puis pose tes questions pour demain, ça va nous faire un immense plaisir. Mais oui, c'est une année triste, 95. Alors moi, c'est clair, j'ai jamais été un Canadien. J'étais un Nordique, j'ai le sang bleu qui coule dans mes veines. Et jusqu'à l'an passé, j'avais été capable de convaincre mes gars de ne pas prendre pour le Canadien. Ils détestaient le Canadien, ils détestaient les fans du Canadien. Et là, soudainement, ils sont rendus avec un gilet du Canadien.
Ouais, moi aussi, ça a fait son entrée dans la maison, les gilets du ouais. Canadien. Puis même, j'aimerais quand même ajouter, puis moi qui connais absolument rien au sport, fait que ça va s'arrêter assez rapidement, que cette nouvelle mode de prendre pour les Blue Jays de Toronto, là, je sais que c'est ton nom du sport, là, avant que vous me le disiez, je le sais, mais prendre pour Toronto... C'est quoi l'affaire qu'on
prend? C'est pour... la seule équipe au Canada, mais notre pays.
Oui, mais je veux dire, on peut prendre pour une équipe de Toronto. Ça me rentre pas dans la tête. Je suis désolée, mais moi, je suis genre nostalgique.
Moi, je suis un fan des Raptors de Toronto au basketball parce que c'est la seule équipe canadienne. Le pays, la fierté canadienne.
Je pense que
le monde est quand même capable de faire une différence entre les différents sports. Justement, c'est pas nécessairement la ville de Toronto qui haïsse en soi. Je pense que c'est plus les Maple Leafs de Toronto qui les fans de hockey haïssent. Fait que dans un autre sport, ils sont capables de se dire, regarde, c'est pas l'idéal. On voudrait une équipe à Montréal, mais ou à Québec, mais dans cette situation-là, ça reste que c'est cette équipe-là qui se rapproche le plus de moi.
Exactement.
Moi, je pense qu'il y a sûrement 2-3 nationalistes à la maison qui comprennent ce que je veux dire.
Oui, c'est clair. C'est clair. Moi, j'ai un ami qui a toujours été séparatiste et quand je vais à un match sportif avec lui, que c'est les Hauts-Canada, il ne se lève pas. Il reste assis.
C'est drôle. Aussi nationaliste que je sois,
ouais.
Je respecte beaucoup l'hymne national et mm-hmm. de toute façon, vous savez qu'ils nous l'ont volé, ça aussi. Là. C'est une chanson qui a été écrite par un Québécois ouais. dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. Là.
Je sais.
Mais ils nous l'ont volé. Mais c'est quand même le même pays.
Bien sûr.
Je veux dire, dans un certain sens, qu'ils mais prennent en Ontario, au Québec.
Les éléments forts de l'identité canadienne, il y en a beaucoup. Là,
ah, ben oui.
C'est comme quand ils se vendent que leur plat national, c'est la poutine. C'est comme...
Mais la provenance du Canada première, historiquement, vient du Québec aussi, fait
bien
que c'est
sûr.
Normal
mais l'hymne national a d'abord été écrit en français ouais. et a été traduit par la suite. Et je connais mon hymne national malgré tout. Et de toute façon, puis même l'hymne national américain qui est hué là, depuis le ouais. retour de Trump et la guerre commerciale, moi je respecte
non, faut pas huer
l'hymne national américain
en
encore.
Mais, et là on va finir la parenthèse sportive là-dessus, mais... En 2010, quand Sidney Crosby a marqué le Golden Goal, et là que le drapeau canadien s'est hissé dans les hauteurs de l'aréna de Vancouver, je chantais fièrement la main sur le cœur, mon Canada. Et cette année, quand Connor McDavid l'a mis dedans en prolongation à Boston pour battre les Américains, à ce moment-là, Donald Trump parlait de nous annexer comme un 51e État.
Tu te sentais canadien, là.
Me sentir canadien comme ça, t'as pas idée comment j'ai gueulé dans le salon quand McDavid a scoré. L'hymne national, ma blonde n'avait jamais vu de même. La main sur le cœur, les larmes aux yeux, l'émotion. J'ai écouté les célébrations, les entrevues dans le vestiaire après ça avec les gars qui chantaient le Haut-Canada autour du trophée. Je me suis couché patriotique comme je l'avais jamais été.
Jeff Fortin, hier, tu disais que t'étais parlable pour la souveraineté.
Oui, je le suis encore.
T'es un peu changeant là, dans ton niveau de nationalisme.
Ouais, ouais, mais mes chums de gars vont te le dire. Moi, j'ai toujours... Quand je crois à quelque chose, ça devient toujours la meilleure affaire au monde.
Ouais, je comprends.
Hein? Comme Boulevard, c'est la meilleure station de radio
au monde.
J'aime ton enthousiasme. Exactement, j'ai un enthousiasme débordant. Alors, quand McDavid l'a mis dedans, là, le Canada, c'est la plus belle chose qui existait sur la planète.
Mais t'as même pas ressenti un peu de patriotisme canadien.
Écoute.
Hey, le but, mais c'était un moment.
Ah non, le hockey, non. Écoutez, les gars, là, vraiment, j'écoute jamais le hockey. Okay. Et je m'en fous comme de l'an 40. Par contre, le petit sentiment de patriotisme, là, le printemps passé, oui. j'ai eu des petits moments d'égarement, je dois vous dire. Ça, c'est grâce à Donald.
On était attaqué. Bon, c'est l'heure de passer au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Et commencer le show en émotion même sur mon Canada.
T'as les yeux pleins d'eau, Jeff, arrête là. Non.
Antonin Iaccarini, avant qu'on parle d'un discours qui m'a pas vraiment amené d'émotion, c'est-à-dire celui de François Legault. Breaking news, la commissaire à l'éthique qui envoie un blâme à André Laforêt, c'est comme ça qu'on peut le dire?
Oui, dans le fond, ce que la commissaire à l'éthique a dit à André Laforêt, c'est qu'elle aurait dû agir autrement dans le cadre d'un dossier. Juste un petit rappel des faits de cette histoire. Il y a quelques mois, on apprenait que André Laforêt, qui est ministre de, qui était ministre à l'époque de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ministre des Affaires municipales, ça a moins rapport avec le dossier, mais député de Chicoutimi aussi. André Laforêt, avant d'être en politique, elle était propriétaire d'un service de garde, l'Académie des petits, des mini-amours.
Oh, les mini-amours.
Ah, les noms de garderie, parce que ça fait toujours rire. Ouais. En partant en politique, elle a légué, elle a donné sa garderie à ses filles, donc c'est resté dans la famille. Il y avait un citoyen qui se plaignait des pratiques administratives de la garderie. Je vous épargne les détails parce que c'est pas très important dans l'histoire. Mais cela dit, le citoyen a contacté sa députée, André Laforêt, qui est la maman des propriétaires et qui est l'ancienne propriétaire de la garderie. Mme Laforêt s'est mêlée de l'histoire, a défendu les pratiques administratives. Bref, elle s'en est mêlée. Et elle était en conflit d'intérêts. Parce qu'elle n'est pas neutre dans cette situation-là.
Tu sais, t'appelles ta députée. Propriétaire et députée.
C'est tes filles qui sont propriétaires. Bon. Donc, elle aurait dû dire aux citoyens, écoutez, je suis en conflit d'intérêt dans ce dossier. Donc, je vais vous référer, par exemple, au ministre de la Famille ou à un autre député de la région, par exemple. Et elle ne l'a pas fait. Moi, honnêtement, je trouve que ce n'est pas la fin du monde.
Ben, moi non plus, là.
Premièrement, je ne vais pas la lapider sur la place publique pour ça. Puis, je trouvais que, tu sais, le citoyen a enregistré l'appel, là.
Fait qu'on s'entend déjà qu'en partant, c'est un citoyen que ça tentait de faire du chichi, là.
Ben, il voulait clairement la pogner. Puis, tu sais, quand t'es ministre régional ou député, t'as plein de citoyens qui se tournent vers toi pour plein de dossiers. Est-ce qu'elle aurait vraiment dû se dire, écoutez, là, je ne suis pas la bonne personne dans ce cas-ci? Effectivement. Mais moi, je retiens aussi qu'il l'a appelé sur son cellulaire. C'est quand même une députée qui est accessible.
Clairement.
Est-ce qu'elle sera accessible pour les autres dossiers qui ne sont pas liés à ses filles? J'espère que c'était le cas aussi à l'époque. Cela dit, est-ce qu'on peut parler du timing de cette décision de la commissaire à l'éthique?
Alors qu'elle est partie justement pour briguer la mairie de Saguenay.
En pleine campagne électorale.
Elle est en avance de façon fulgurante dans les sondages. 47% des intentions de vote dans le sondage de Radio-Canada.
Donc,
là,
d'après moi, là, ce blâme-là, tu sais, quand même qu'elle perdrait 3 points, beaucoup d'avance sur ses adversaires politiques. Mais c'est sûr que si j'étais la commissaire à l'éthique, je me poserais quand même la question, est-ce que ça devient pas un élément perturbateur dans une campagne électorale? En même temps, c'est pas son problème qu'André Laforêt soit en campagne électorale. Fait que, bon, bref, je pense pas que ça va être la fin du monde, cela dit. Elle a une petite tâche à son dossier, Mme Laforêt.
C'est ça. Exactement. François Legault a fait son discours hier, un discours quand même assez rapide de 45 minutes. Ce que je te propose, Antonine, c'est qu'on va faire un genre de beat the clock. C'est comme dans le temps, là, d'un bar, parce que, mettons, c'est pas connu ça, parce que ça n'existe plus. Là. Mais dans le temps d'un bar, t'avais un beat the clock, mettons, de 10h à 11h, c'était une pièce. 11h à minuit, 2 piastres. Minuit à 1, 3 piastres, les drinks. Puis là, ça montait toujours comme ça.
C'est ça. Une pièce. Vous autres, les filles, ça coûtait pas une scène, là, généralement.
Ouais, c'est ça, vous autres, les filles.
Attends, non, mais
il y avait soit un gars qui vous le payait, on faisait des soirées gratuites pour les filles.
C'est Ladies Night!
Ben, c'était normal, ça attirait les gars.
Jeff, ils peuvent ramener Beat Tuck Tuck puis mettre des tarifs les plus élevés de ça. Ça va quand même mettre moins cher que présentement.
Exactement, parce qu'on avait les Beat Tuck Tuck. Fait que je te propose ça. On écoute un extrait de François Legault et on réagit rapidement en quelques phrases. On commence avec l'islamisme radical.
Un autre phénomène qui est en montée au Québec, c'est celui des groupes politico-religieux qui s'attaquent à certaines de nos valeurs communes, comme la laïcité. Soyons honnêtes, ce sont surtout les islamistes radicaux qui s'attaquent à ces valeurs avec le plus d'intensité. Encore là, je vais être bien clair, je ne vise pas les Québécois de confession musulmane ou qui sont originaires de pays musulmans. Je parle des islamistes radicaux, un groupe de personnes qui tentent par tous les moyens d'imposer leurs valeurs, de contester nos valeurs et en particulier le droit des femmes à l'égalité. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. On ne va pas laisser personne s'attaquer à la liberté chèrement acquise par les Québécoises depuis des décennies. Jamais!
Les ovations. Premièrement, c'est vrai, je vais te poser une question avant qu'on réagisse là-dessus. Pourquoi il y a autant d'ovations dans un discours? Bon, on ovationne aux 3 minutes. Là.
Ça, moi aussi, je trouve que c'est l'enfer. Puis on n'est plus habitué parce que dans les périodes de questions, c'est interdit maintenant d'applaudir parce qu'on perdait un temps fou à s'applaudir et à donc se trouver bon. Donc là, il en profite. Là. Maintenant, quand il y a une occasion, puis c'est permis d'applaudir. Oui,
mais c'était épouvantable. Il finissait un sujet, puis là, c'était l'ovation pendant 2 minutes.
Déjà que c'était mince un peu, des fois, ouais, en termes de ça. Détails.
Oui, puis honnêtement, islamistes radicaux, puis je vais commencer, tu commenceras le prochain sujet. T'sais, vous le savez, je suis pour la laïcité. Mais là, de la mettre dans un discours du premier ministre, l'islam radical, je le sens pas. Je pense pas qu'on le sent tant que ça à Montréal. Et de toute façon, il y a des lois qui existent là-dessus pour des propos haineux. On peut aller arrêter les gens, les poursuivre en justice. Fait que pourquoi ça s'est retrouvé dans le discours du premier ministre si ce n'est que pour essayer d'attirer des votes?
D'abord, les lois sont pas suffisantes en ce moment. On a des gens comme Adil Sharkawi qui disent des propos qui sont haineux et
ouais,
qu'il n'y a pas d'accusation.
Devrait t'arrêter. T'as raison.
Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est sûr que de nommer les islamistes, parce qu'on pourrait dire toute religion qui met en danger les droits des
toute
femmes,
extrémiste, exactement.
On va arrêter ça. Mais il a décidé de nommer. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'était nécessaire? Puis c'est pas pour rien qu'il commençait par sa phrase par « soyons honnêtes », il savait que ça allait brasser. J'ai beaucoup réfléchi à ça hier après-midi et honnêtement, je pense qu'il faut le dire. Ce qui s'est passé à l'école Bedford à Montréal, c'est pas unique. Il y a plusieurs écoles. Je comprends que là, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est pas un problème. C'est correct, mais on a un problème dans certaines écoles où des professeurs homosexuels se font harceler, mm-hmm. ont de la difficulté à donner leurs cours, où des intervenantes, des enseignantes femmes se font dire qu'elles n'ont pas le droit d'aller dans un local ou dans un autre ou de rentrer dans la classe d'un enseignant parce que ça va à l'encontre de ses valeurs, des prières dans les classes, etc. Il y a des moments où le droit de religion entre en contradiction. Puis là, je veux juste parler de l'égalité homme-femme. Puis je suis une femme, puis ça me touche beaucoup. Parce qu'on voit les droits des femmes qui reculent un peu partout. C'est pas toujours à cause des islamistes radicaux, par exemple. Hein? On a des toutes sortes de radicaux de toutes sortes de religions, ouais. Effectivement.
Il y a un politicien de l'autre côté de la frontière, je pense, qui fait reculer le droit des femmes.
Oui, puis qui décomplexe beaucoup de masculinistes. Ouais. Il y a toutes sortes de phénomènes en ce moment. Mais comme femme... J'ai envie que tous les partis politiques, pas seulement la CAQ, j'aimerais que tous les partis politiques s'engagent à protéger les droits des femmes. Je pense que c'est un acquis qu'on a chèrement payé, pour lequel on a travaillé et qu'on ne doit pas reculer. Par exemple, à la demande de certains accommodements de certains groupes pour des questions de religion qui rentrent en contradiction avec l'égalité homme-femme ou avec les droits des personnes LGBTQ, on n'a pas de compromis à faire là-dessus. Vous pouvez pratiquer votre religion. Il n'y a personne qui vous empêche de pratiquer votre religion. Donc, je sais que c'était de bon goût et de bon ton de dire que ça n'a pas de bon sens, le discours du PM, là, qu'est-ce qu'il a dit. Mais j'invite les gens à passer par-dessus la politique et à réfléchir au fond des choses sur cet enjeu-là qui est tellement important. Et c'est un phénomène qui existe, peut-être moins en région, peut-être moins à Québec, mais qui existe néanmoins à Montréal.
Je vous invite à réagir 418-971-1021 justement sur les différents extraits qu'on vous fait jouer de François Legault. Deuxième extrait, François Legault attaque les syndicats.
Depuis qu'on forme le gouvernement, on a conclu des dizaines d'ententes avec les employés du secteur public. Les syndicats ont leur utilité dans une société et au Québec, ils sont particulièrement favorisés, ne serait-ce que par la Formule Rent. Mais ce régime avantageux vient avec une responsabilité pour les dirigeants syndicaux. Malheureusement, le Québec est champion des grèves qui privent les travailleurs de revenus pendant des semaines, des grèves, comme on le voit actuellement, dans le transport en commun, qui empêchent des milliers de personnes d'aller travailler, de recevoir des soins, des assemblées syndicales qui se tiennent aux petites heures du matin, des dirigeants syndicaux qui utilisent les cotisations des travailleurs pour contester une loi sur la laïcité que ces mêmes travailleurs appuient et des dirigeants syndicaux qui manquent de transparence sur l'utilisation de leurs cotisations syndicales. C'est un système de pratique qui est dépassé, qui nuit aux travailleurs, qui nuit aux citoyens et qui nuit au Québec tout entier.
Oh, j'ai laissé une petite ovation.
Oui, t'es aime, hein? J'aime ça.
J'aime payer
c'est pour nous remettre dans l'ambiance.
Syndicat, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, écoute, je pense que ça va être populaire. C'est des mesures qui vont être populaires. J'ai trouvé, par contre, que la justification était beaucoup dans les anecdotes. T'sais, c'est sûr, ça flash de dire les dépenses qui se retrouvent sur la une du Journal de Québec ou Journal de Montréal, etc. Mais la réalité en arrière de ça, c'est qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par la CAQ qui ont eu tellement de difficultés à mettre en place justement à cause de ce qu'on appelle le carcan syndical. Et ça, ça a beaucoup choqué François Legault, puis c'est une ritournelle qu'il a depuis toute sa vie en politique. Mais par exemple, quand on a voulu augmenter le nombre de préposés aux bénéficiaires et mieux les payer, mais là, on se butait à des autres professions au sein des mêmes syndicats qui voulaient eux aussi avoir une augmentation de salaire, etc. C'est le genre de choses, quand on a voulu mettre plus de flexibilité dans le système de santé aussi, on s'est buté à des limites syndicales. Et ça, ça choque énormément François Legault et son équipe. Ils veulent être en mesure, dans la dernière année, de faire des choses qui vont fonctionner. Puis ils veulent se libérer de certains de ces obstacles-là. Puis évidemment, les syndicats disent c'est les droits des travailleurs qui vont écoper. Moi, je pense que politiquement, ça demeure très, très bon, là.
Oui, exactement. Puis moi, honnêtement, je suis en accord avec François Legault quand il parle de autres responsabilités que les syndicats se sont attribués. Tu sais, moi, voir Magali Picard à Dubaï là, pour combattre les grandes pétrolières, là. Dans le Québec, puis gère donc les relations syndicales, les relations de travail. Ben, ça, moi, je comprends pas pourquoi le syndicat s'implique dans les causes environnementales. C'est pas de son ressort.
Est-ce que c'est au gouvernement de décider ça ou ça serait aux membres?
Ben, ça serait aux membres.
Je me pose la question.
Mais le problème, c'est que dans les assemblées syndicales, il y a encore trop, tu sais, pour l'avoir vu puis avoir parlé avec des gens, il y a encore trop de gros bras qui s'organisent
pour la loi.
Ça soit le message, exactement, ouais. Qui font la loi. Et ça, dans ce sens-là, les seuls qui peuvent les sortir du bourbier, c'est le syndicat eux-mêmes. Par exemple, l'exemple frappant, c'est le RTC, les gars d'entretien qui demandaient 30 % de salaire. La grande centrale syndicale de l'SSN a dit « Savez-vous quoi? Vous ne nous embarquerez pas là-dedans. Ça va être 18 puis ça s'arrête là. »
Effectivement, il y a comme autorégulation.
Oui, exactement. Mais il y a trop peu de cette autorégulation-là à l'intérieur des syndicats. Prochaine chose, on parle de la camisole de force bureaucratique au niveau du Québec.
La question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les contraintes qu'on s'impose à nous-mêmes. L'environnement est un bon exemple. On a actuellement des délais d'octroi de permis qui sont beaucoup trop longs. On me raconte des histoires d'horreur pour construire de simples ponceaux. Les maires du Québec qui s'en vont en élection sont imputables. Il faut leur laisser plus de marge de manœuvre. J'ai donc demandé à tous les ministres, et aujourd'hui je donne instruction à tous les ministères, tous les organismes, tous les réseaux et toutes les sociétés d'État de lever toutes les pierres, de remettre leur façon de faire en question, de trouver des façons d'être plus efficaces. Il faut changer notre mentalité d'extrême prudence et accepter de prendre des risques mesurés. Il faut libérer le Québec de cette camisole de force bureaucratique.
Ovation à nouveau!
Une autre ovation.
Camisole. Ben, premièrement, la camisole de force bureaucratique, pour moi, c'est la CAQ qui l'a serré encore plus. Fait que je trouve que c'est un constat d'échec lorsqu'il parle de ça.
Ben, ils ont rajouté de la bureaucratie d'un côté, mais en même temps, ils ont fait plusieurs projets de loi pour réduire la bureaucratie avec les entreprises.
Oui, c'est d'augmenter l'efficacité.
Bon, écoute, c'est un bilan qui est mitigé, on est d'accord. Encore une fois, tout le monde se demande pourquoi maintenant, pourquoi la dernière année?
Ouais.
Pourquoi ça n'a pas été fait
avant?
Parce
que dans les sondages, on était à 15 %.
Mais c'est ça, puis la question d'alléger la bureaucratie puis de soulever toutes les pierres, on dirait que tout le monde dit ça.
Oui.
On dirait qu'on ne voit jamais les résultats. Par contre, dans le cas de François Legault, ce discours-là, là, hier, c'était... Tout le monde a dit que c'est du réchauffé, puis les gens ont raison. Mais c'était aussi... Il voulait structurer qu'est-ce qu'il aimerait que ce soit son legs.
Mm-hmm.
C'est sa pensée politique. L'économie, briser les carcans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, les amis, pour François Legault. Il ne s'est pas trouvé ça cette année parce qu'il est dernier dans les sondages. Il répète ces messages-là depuis extrêmement longtemps.
C'est-tu juste que là, il met de la pression à son équipe pour essayer que ça se réalise enfin?
Ils sont authentiquement tannés de se buter à des obstacles. Tantôt, je vous parlais des obstacles syndicaux.
Mm-hmm.
Là, on parle d'obstacles dans la propre machine gouvernementale. Ils sont frustrés de voir des projets qui n'atterrissent pas et trouvent ça long. Et c'est une démarche qui est sincère. Est-ce qu'elle arrive trop tard? peut-être. Est-ce qu'il y a de la politique là-dedans? Certainement, on donne des exemples, là, encore une fois, là, qui sont anecdotiques un peu. Mais c'est une frustration qui est vraie au cabinet du premier ministre en ce moment. Ils veulent faire tomber des obstacles, que ça aille plus rapidement. Quand on fait un chantier pour un grand projet, là, on a donc peur que tout, il faut protéger la grenouille, les insectes, les arbres, il y a l'acceptabilité sociale. Il ne faudrait pas que quelqu'un se blesse sur le chantier. Fait que là, on met des réglementations supplémentaires de ci, de ça, de ci. Et là, tout ça s'accumule et pas toujours logique non plus ensemble. La coordination n'est pas toujours excellente. Donc, il y a un vrai travail à faire. Et on a du côté du gouvernement l'intention de déposer un projet de loi équivalent à C5. Là, on parle par exemple des grands projets et des obstacles qui sont plus, mettons, au ministère de l'Environnement.
Oui.
Et principalement, pour accélérer les processus, pour que ça aille plus rapidement aussi, le premier ministre Legault embarque un peu dans le train là, d'acceptabilité face que Mark Carney a à l'heure actuelle dans le cadre de la crise commerciale. Et il semblerait que ce soit Éric Girard, le ministre des Finances, pas le gars du Lac-Saint-Jean,
qui va
gérer chapeauté. Ce projet de loi-là, mais ce projet est chapeauté par le cabinet du premier ministre lui-même et ça lui tient énormément à cœur.
Tu penses quoi des BAP? Parce que moi, je me dis, on peut pas non plus scraper tout. T'sais, je comprends que je veux pas sauver l'hirondelle à l'île d'Orléans quand je fais le pont, mais je peux pas non plus scraper tous les milieux humides non plus qui existent.
Non, on a besoin des milieux humides en passant, les amis. Hein. C'est ça. Ça fait pas juste nuire à des projets, à des milieux humides.
Non.
Ça filtre notre eau.
Quand il y a ces projets de loi-là, de grands projets, OK, fine, je veux que ça aille plus vite, mais on a quand même cet outil-là qui nous permet de faire en sorte qu'on va structurer nos choses intelligemment en fonction de plein de paramètres qui sont l'économie, l'environnement, le milieu social. Donc, moi, qu'on passe constamment par-dessus, ça m'effrite. Puis je sais que je suis à contre-courant en disant
ça. Puis les BAP, c'est ce qu'on connaît le plus, hein, parce que les gens le connaissent, mais il y a toutes sortes d'autres processus d'autorisation. C'est pas tous les projets qui font l'objet d'un BAP. Un BAP, c'est plus lourd, c'est du costaud, puis il y a des consultations, puis vous pouvez aller vous exprimer, déposer des mémoires, etc. Mais il y a toutes sortes aussi d'autres processus qu'on voit pas. Couper dans les processus environnementaux d'autorisation, ça veut pas nécessairement dire un BAP, pas de BAP. Là. Ça peut se faire autrement. Coordination entre les différents ministères aussi. Tu sais, par exemple, si moi je construis un pont à quelque part qui existe déjà, okay, il existe.
Ouais.
Puis là, l'environnement me dit, non, mais là, on veut limiter, c'est hypothétique, mais on veut limiter la quantité de sel qu'on va mettre l'hiver sur le pont, fait que vous ne pourrez pas mettre de sel de tel, tu sais, pendant l'hiver parce que c'est pas bon pour tel poisson. Mais on le sait qu'à la fin de la journée, on va le construire, ce pont-là. Mais là, on niaise avec... Tu sais, des fois, c'est... Des fois, c'est une mauvaise coordination entre les ministères. Et il va y avoir aussi la notion de projet d'intérêt national qui va embarquer à un moment donné. Si le gouvernement l'identifie comme un projet d'intérêt, comme c'est le cas au fédéral, peut-être effectivement qu'à mon avis, on va passer plus vite sur certains processus environnementaux.
Ce ne sera pas mauvais en soi, mais il ne faut pas toutes les balayer du revers de la main, selon moi. C'est juste ça d'avoir l'équilibre.
Moi, Jeff, de toute façon, là, cette nouvelle affaire-là de maintenant, on s'en fout de l'environnement puis on change tous nos objectifs, je pense qu'on va revenir à l'évidence éventuellement qu'il y avait une raison aussi pour laquelle on avait mis ces objectifs-là. Oui. Là, il y a Donald Trump, on est un peu découragé, il y a une crise commerciale, l'économie passe avant tout, mais moi, je pense pas que ce virage là, à 180 degrés va se faire au complet parce qu'il va y avoir une levée de bouclier éventuellement. Là,
oui,
l'environnement, c'est rarement la priorité de tous les instants, puis c'est pas sur ça que les gens votent. Mais c'est pas vrai là, que tout à coup, là, ça n'a plus d'importance. Là.
Puis en même temps, si on n'avait pas eu de tarification interprovinces, si on n'avait pas de la fiscalité très lourde pour nos entreprises à l'heure actuelle, si on subventionnait un petit peu plus nos entreprises québécoises qu'étrangères, bien peut-être que Donald Trump nous ferait moins mal aussi.
Peut-être aussi. Puis, tu sais, c'est drôle parce que là, on parle de couper dans la bureaucratie, mais si vous voulez que ça aille plus vite aussi au niveau des autorisations environnementales, puis vous coupez à moitié des fonctionnaires qui font des autorisations environnementales.
Ça ne pourra pas aller plus vite.
Je pense pas que ça va aller plus vite.
Non, ça passera pas dans la machine à saucisses, comme on pourrait dire. Je termine le caucus Iaccarini avec la déclaration de Marois Risky sur ce qu'il manquait dans le discours de François Legault.
Or, il y avait des grands absents. Pas un mot sur les priorités des Québécois, qui sont quoi? Pas un mot sur le logement. Pas un mot pour les jeunes familles qui ont carrément abandonné le rêve d'un jour être propriétaire. Pas un mot sur la crise de l'itinérance qui sévit partout au Québec, pas juste à Montréal, là, dans les villes, dans nos villages. Vous avez tous entendu hier le maire Bruno Marchand à cet effet. Pas un mot pour nos jeunes, pas un mot sur notre jeunesse, là, dont le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale. Pas un mot pour eux. Pas un mot sur la qualité du français de nos jeunes en secondaire 5, alors que l'éducation devait être sa grande priorité. Il me semble qu'il aurait pu aussi nous parler de nos régions. Alors, pas un mot sur la réforme du régime forestier. Alors, sincèrement, je me pose la question suivante. Est-ce qu'elle n'a pas parlé parce que c'est pas une priorité pour lui? Est-ce qu'elle n'a pas parlé parce qu'il n'y a pas de solution? Ou est-ce qu'elle n'a pas parlé parce qu'il n'a pas encore trouvé son bouc émissaire? Ou peut-être toutes ses réponses.
Moi, ça m'a frappé hier, le logement. J'écoutais le discours du premier ministre, puis là, je me disais, OK, on sort d'une campagne fédérale où le logement était la priorité et c'était fin avril. On n'a pas réglé la crise du logement au mois de septembre, là.
Non, puis dans ses priorités, il y a le portefeuille des gens. La crise du logement,
ben c'est...
ça a un impact sur le coût des logements, des maisons, des ça joue dans votre
portefeuille.
T'as
tellement raison. Normalement, notre logis devrait nous coûter au maximum 30 % de notre... nos dépenses.
Absolument.
Mais là, présentement, il y a plein de familles qui essayent à 45, 50, 55 % à cause du coût des logements qui, par le fait même, fait augmenter le coût des propriétés
bon,
aussi.
L'autre côté de la médaille, c'est qu'à un moment donné, s'il avait tout mis dans son discours, on aurait dit que c'était éparpillé et qu'il n'y a pas de priorité. On a tendance toujours à remarquer ce qu'on met pas. Sur l'éducation, Marois Risky le soulignait, je suis obligée de dire que ça, c'est un gros oubli parce que la CAQ nous a dit depuis le début de son existence que c'était sa priorité. Mm-hmm. J'ai réécouté le discours de François Legault de Victoire en 2022, la semaine passée. Vous allez dire, mon Dieu, t'as pas de vie, mais c'est justement parce que je voulais comparer les deux. Et il l'a dit dans ses trois premières phrases. La priorité des priorités, ça demeure l'éducation pour nous, parce que c'est la clé pour tout le reste, pour l'économie, pour la culture, pour la... Puis là, ça a complètement été évacué. T'sais, c'est ça qui est particulier. Le dossier de la sécurité a fait son entrée.
Oui.
L'itinérance, puis la crise des opioïdes.
C'est de la sécurité.
C'est de la sécurité. On en parle tellement à Québec, justement.
Ben, parlons aux commerçants de Saint-Roch.
Et
là.
Voilà. Est-ce qu'on se sent en sécurité? J'étais dans Saint-Roch hier, justement.
Ah ouais, puis? Sentais-tu en sécurité?
Pas tant, non. En
non,
sortant
ouais.
du resto à la fin de la soirée, je regardais au-dessus de mon épaule. Puis c'est
effet.
Pas contre les gens en passant. C'est
non,
juste
non,
que,
non.
Clairement, il mais... y a des défis de santé mentale, puis des fois, c'est un peu imprévisible. Donc, le sentiment de sécurité est lié avec la crise de l'itinérance.
Clairement.
Aussi.
On fait une courte pause du côté de Boulevard 102.1, l'émission On en jase. Et par la suite, on va venir parler avec... le président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, Guillaume Michaud, coupure de 50 postes de procureurs. Quand la priorité, c'est la sécurité, Antonine? Ça sonne mal, hein? Fait comme parler des deux côtés de la bouche.
À moi qui faisais rien, ce monde-là, je sais pas.
Ben, peut-être. On va en parler avec Guillaume Michaud immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, l'émission On en jase.
On jase jusqu'à 14.
Je préviens, on jase.
Oui, on en jase, on sait que vous aimez ça, on aime ça vous en jaser, et on vous jase météo parce que c'est 13 degrés à l'heure actuelle, 15 degrés généralement ensoleillé aujourd'hui au maximum, 16 degrés demain, 20 degrés vendredi, 23 degrés samedi, puis 24 dimanche. Ça fait juste augmenter, on a un super début du mois d'octobre. Pour nous joindre, 418-971-1021 évidemment, blvd.fm. Vous pouvez nous écouter via la web radio, notre application BLVD 101 disponible sur App Store, Google Play Store. Et également, n'oubliez pas le haut-parleur intelligent où vous dites BLVD et on tombe sur vous. Et on est également sur twitch.tv/blvd.fm. Parlant de gens pour lesquels ça va moins bien, c'est les procureurs au niveau des poursuites criminelles et pénales. Et on accueille au bout du fil le président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, Guillaume Michaud, pour commenter les coupures de postes. 50 postes vont être coupés avec les coupures budgétaires du gouvernement. Monsieur Michaud, comment allez-vous?
Ça va bien dans les circonstances, je vous dirais.
Oui, exactement. Avez-vous l'impression que le gouvernement parle des deux côtés de la bouche? On met la sécurité dans nos priorités, mais on coupe 50 postes au niveau des procureurs?
Oui, puis en fait, je ne veux pas vous reprendre, mais c'est 50 postes qui ont été coupés. Donc,
OK, pardonnez-moi.
C'est déjà des postes qu'on a perdus. Puis on attend de voir, là, il y a 60 occasionnels qui doivent être renouvelés d'ici le 30 octobre. On attend de voir là, comment, de quelle façon ça va empirer tout ça dans les prochaines semaines. Alors, c'est pas pour rien qu'on sonne l'alerte immédiatement. Là. C'est de dire, là, on a déjà perdu 50 postes. Est-ce qu'on va en perdre 60 autres? Qu'est-ce qui va se passer avec nos occasionnels qui ont plusieurs dossiers avec eux? Et est-ce que c'est l'ensemble des dossiers vont être reportés sur les autres procureurs qui n'y arrivent déjà pas eux-mêmes? Là? Donc, c'est là qu'on en est présentement. Là.
Concrètement, quel impact on pourrait ressentir là, de ces coupures dans notre système de justice?
Bien, en fait, il y en a plusieurs. Là. D'un, au niveau, quand il y a on a une priorisation des dossiers. Donc, ça existe depuis 2023 parce que ça c'est pas d'hier que ça date, là, le problème. La seule différence, c'est que là, en plus de ça, on perd des effectifs. Donc, priorisation des dossiers, ça veut dire qu'il y a des dossiers qu'on doit prioriser sur d'autres, donc des dossiers avec des victimes. Donc, victimes de violences conjugales, violences sexuelles, on doit prioriser ces dossiers-là. Sur quoi? Sur des dossiers, on va dire, sans victimes, même s'il y en a parfois, là, notamment des fraudes, des facultés affaiblies, des cas de drogue, des méfaits, des vols, des bris de probation. Alors ça doit passer en deuxième lieu. Alors la première question, c'est de dire, on veut-tu vraiment faire ça, de dire, ben il y a des crimes que c'est pas si grave que ça si on les fait pas. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur les victimes? Ben oui, parce que présentement, les victimes, on les fait attendre. Parce que c'est pas vrai qu'on peut traiter leur dossier. C'est pas parce qu'on les priorise qu'on peut les traiter plus vite, là. Il y a des victimes qui attendent présentement des semaines avant que le procureur puisse les rappeler, des semaines avant que le dossier puisse être autorisé, d'autres semaines avant que le dossier puisse procéder. Alors, on se retrouve avec des victimes qui attendent des mois, des années avant même que leur dossier puisse procéder. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, la victime va se désengager du système de justice, là. Ça va être difficile pour elle de dire, ben, moi, j'ai attendu tout ce temps-là. Et finalement, ça procède jamais. J'ai plus confiance au système de justice et c'est pas ça qu'on veut.
Ouais, en effet, ça n'incitera pas les gens justement à porter plainte, surtout en termes de violence sexuelle. Et dites-moi donc également dans le processus justement de quelqu'un qui a été victime d'un acte criminel, notamment une agression sexuelle, aller en parler, aller immédiatement justement raconter son histoire, ça fait partie d'un processus normal qui aide la victime à passer au travers.
Ben c'est certain. Imaginez-vous, ce qui se passe, c'est que la victime va aller au poste de police, va se présenter, va avoir le courage d'aller porter plainte, mais le dossier commence là, à cette étape-là. Alors là, le policier va devoir enquêter, ce qui va nécessairement prendre un certain temps lui aussi. Alors, la victime doit déjà attendre après ce temps-là. Là, le policier va aller déposer le dossier dans le bureau du procureur, donc va aller probablement le porter, le dossier va entrer, va être après ça disposé dans chacun des bureaux par le procureur en chef. Mais avant que ça se rende dans le bureau, là, présentement, on retient certains dossiers parce qu'on n'est pas capable de les traiter. Une fois qu'il est rendu dans le bureau, ben, le procureur n'a pas le temps de le lire tout de suite parce qu'il doit procéder dans ceux qui existent déjà, parce qu'on ne peut pas l'échapper dans ceux qui ont déjà été, les accusations qui ont déjà été portées, parce que les délais courent à ce moment-là. Alors, ce qui fait en sorte qu'il y a des dossiers qui peuvent rester dans le bureau des semaines, des mois sans être lus parce que le procureur n'a tout simplement pas le temps. Est-ce qu'il est découragé de ça? La réponse, c'est oui. Il voit les dossiers en arrière. Il sait que c'est des victimes qui attendent, là. On le sait clairement, là. On est complètement découragé, mais on n'a aucun autre choix que d'attendre parce qu'on n'est pas capable de faire les dossiers. Et là, on voit les procureurs qui perdent leur travail à tous les jours ces temps-ci et on se dit comment on va y arriver.
Avec les délais qui augmentent, est-ce que vous craignez une augmentation des recours par rapport à l'arrêt Jordan? Est-ce que des causes pourraient être carrément abandonnées?
Ah ben, il y en a déjà eu plusieurs, puis il va en avoir plus si on fait rien et si le gouvernement passe pas de la parole aux actes, là, parce que là, on dit, c'est ça, nous, la justice, c'est ça qui est important pour nous, là. C'est une de ces quatre grandes priorités. Puis l'autre côté, on dit on coupe dans la bureaucratie. Écoutez, il n'y en a pas de bureaucratie au DPCP, là. Il n'y en a pas dans les procureurs. Les procureurs, ils s'occupent des victimes, ils s'occupent des dossiers. Il n'y a pas un procureur qui remplit la paperasse, là. On coupe directement dans le service aux citoyens. Donc, si on coupe dans le service aux citoyens, bien nécessairement, il y a des dossiers qui vont tomber, il y a des dossiers qui vont être réglés à rabais, il y a des dossiers qui sont réglés à rabais présentement, là. C'est pas une cachette, là. On règle des dossiers parce qu'on préfère les dossiers de régler certains dossiers un peu plus bas que les perdre tout simplement, que de dire, ben, l'accusé s'en sort tout simplement. Au moins, on se dit, bon, ben, il y aura un dossier criminel, puis s'il recommence, ben, au moins, il y aura une tâche à son dossier, puis on essaiera d'avoir un petit peu plus la prochaine fois.
Ça devrait pas être ça, là. J'imagine que vous avez communiqué ces préoccupations-là au ministre de la Justice, au ministère
bon,
de la Justice. Ben, comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous apportez vos arguments?
Ben, d'un, c'est pas, on n'a pas des grandes discussions, là. Je vais vous dire bien honnêtement, depuis que je suis président, ça fait 8 ans, j'ai pas eu des grandes discussions avec le ministre de la Justice, là. Donc, on n'a pas eu de grands contacts. À chaque année,
parce qu'il refuse vos demandes de rencontre ou?
Ben, en fait, je lui ai écrit. On en a eu, pas beaucoup. La dernière, à chaque année, on dépose un mémoire sur les crédits budgétaires et on dit la situation, qu'est-ce qu'il y en est. J'ai pas d'appel du ministre. J'en ai eu un cette année au niveau des finances. On nous a écoutés pour la forme, mais j'ai pas senti qu'on nous avait. On nous a écoutés, mais la journée d'après, les semaines après, ben, le budget a été coupé et là, depuis ce temps-là, on a fait que perdre des procureurs. Alors, c'est beau de dire on vous entend, on vous rencontre, mais là, il faut que ça veuille dire quelque chose. Et c'est pour ça que présentement, ben, mon seul moyen, c'est d'aviser la population. C'est quoi le système de justice qu'on veut? Parce que si c'est ça qu'on veut, ben dites-nous-le correctement, faisons face à ça, puis dites-le à la population, dites, ben là, c'est ça maintenant. On n'investit pas dans la justice, puis malheureusement, il y a des crimes, puis il y a des criminels qui vont s'en sortir. C'est pas ça qu'on veut comme procureur, mais si c'est ça que le gouvernement veut, ben qui s'assume, qui arrête de faire semblant, puis qui ne dit surtout pas que c'est prioritaire pour lui la justice, il agit comme ça, mais si ça l'est, comme il le dit, et je vais l'écouter, hein, M. Legault vient dire, c'est une de ses priorités, ben j'espère qu'il m'entend aujourd'hui, puis qu'il entend un procureur qui est sur le terrain, des procureurs qui n'en peuvent plus, puis qui va faire quelque chose immédiatement pour dire, non, c'est pas ça qu'on voulait, là, on s'est mal compris, on va continuer d'injecter, puis on va sauver les postes qui sont en péril présentement.
En terminant, M. Michaud, dites-moi donc, comment est le moral chez les troupes? Parce que j'imagine, tantôt, vous parliez de peine à rabais. Là. Quand on est procureur puis qu'on règle un dossier, exemple, avec une entente à l'amiable pour une peine d'emprisonnement de 4 ans, mais qu'on sait que normalement, si on se serait battu, ça, on n'aurait pas allé chercher un 10-12 ans, ça doit être décourageant sans
bon sens. Il n'y a personne qui est content de ça. C'est pas, on est des officiers de justice, on est là pour protéger la société, on est là parce qu'on a cette vocation-là, puis on y croit fermement. Maintenant, quand on est obligé de faire ça, quand on voit des dossiers tomber, quand on voit des piles de dossiers dans le bureau, on se sent pas bien. Là. Fait que le moral, il est pas bon. La santé mentale est pas bonne. Puis malheureusement, ben ça va juste faire s'empirer. Alors, faut faire quelque chose. C'est un choix de société. Puis il faut réagir immédiatement là, pendant qu'il est encore temps.
Monsieur Michaud, on va faire suivre vos commentaires au ministre, on vous le promet. Félicitations pour le combat que vous menez. Guillaume Michaud est président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. On vous souhaite bon courage, là, justement, dans ce combat contre le gouvernement.
Merci beaucoup pour votre temps.
Merci à vous. Au revoir. Antonine, c'est quand même assez préoccupant de savoir que là, il y a des criminels qui ont des peines réduites, puis il y en a même qui passent par l'arrêt de Jordan, alors que c'est censé être une priorité pour le gouvernement.
Oui, puis on voulait, du côté du gouvernement, rendre le système de justice plus efficace.
Oui.
On en est tous. On est tous d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on pouvait se passer des procureurs eux-mêmes à travers ça? Ben est-ce que c'est ça l'efficacité?
Ils le disent pas, des pouces crayons là, sont en cours puis ils passent leur journée justement à plaider.
Puis on le sait, il y a déjà des délais qui sont énormes. Hey, vous vous rappelez du cas monsieur qui est devenu une madame finalement qui a tué ses enfants et sa conjointe?
Oui, ses trois enfants à Laval.
La mère de cette conjointe qui a été assassinée avait justement lancé un appel, un cri du cœur dans les médias parce qu'elle disait c'est tellement long.
Ben oui.
C'est long. J'ai besoin que ça se termine. Là,
ouais, ça a été le procès a eu lieu en 2024, puis c'était un meurtre de 2021. Fait qu'imagine, pendant 3 ans, tu portes cette souffrance-là.
Puis souvent, c'est des accusés qui font toutes sortes de gamiques aussi avec leur avocat pour rallonger les choses. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on contrôle? C'est d'être capable d'avoir un système de justice qui est capable de répondre à la demande.
En effet, à la demande et à la demande rapidement. On passe de M. Michaud au député Île-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. On va revenir sur le discours du premier ministre. C'est Joël Arsenault qui est au bout du fil. Monsieur Arsenault, comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Super bien. Merci de votre disponibilité aujourd'hui. Avant de parler du discours de François Legault, j'aimerais que vous me parliez de votre décision de quitter justement le Salon Rouge lors là, de l'allocution de la lieutenant-gouverneur.
Un simple geste de cohérence. Vous savez que le 27 mai dernier, à l'unanimité des députés de l'Assemblée nationale, on a passé une résolution ou adopté une motion pour dire que le Québec devait rompre avec la monarchie. Alors, la prochaine occasion qui s'est manifestée, c'était hier. Est-ce qu'on reconnaît la légitimité de la lieutenant-gouverneur de venir nous entretenir des sujets qu'elle choisit avant le retour à l'Assemblée nationale pour les travaux? Nous, c'est clairement non. Et c'est la raison pour laquelle on est sorti discrètement le temps qu'elle fasse son discours pour revenir ensuite écouter le vrai discours, celui qui compte, celui du premier ministre qui allait inaugurer la nouvelle session.
Est-ce que Québec solidaire se cherche des amis chez les partisans péquistes pour avoir quitté avec vous?
Je ne le sais pas, mais ils avaient, dans le passé, signifié qu'ils étaient contre la monarchie. Ils n'étaient pas allés jusqu'à ne pas prêter serment au roi. Souvenez-vous là, de cet épisode de la fin de 2022. Ils étaient rentrés dans le rang en prononçant le serment derrière des portes closes. Hier, nous les avons informés environ une demi-heure avant la période de présentation des discours pour leur signifier ce qu'on avait l'intention de faire. Ils ont suivi avec nous. Est-ce qu'ils avaient pris la décision avant? On ne le sait pas trop, mais finalement, on pensait qu'ils étaient indépendantistes en principe. Donc, on voulait leur faire part de ça sans faire une esclandre, sans faire un spectacle. On voulait tout simplement se retirer ce qu'on a fait, les deux parties.
Est-ce que, justement, on prépare déjà le camp du oui avec le fait que vous allez prôner pour la souveraineté lors du premier mandat?
Bien, je dirais qu'on prône d'abord et avant tout la cohérence. Et puis, à un moment donné, il faut se demander si les motions qu'on adopte au jour le jour, il y en a 3-4 par jour, en fait, à l'Assemblée nationale, si ça signifie quelque chose. Et c'est là où on s'interroge, parce que si on vote ces motions-là, puis qu'elles sont pas contraignantes, mais même sur le plan moral, on ne les respecte pas ni dans l'esprit ni dans la lettre, ça sert pas à grand-chose. Alors, nous, minimalement, c'est un geste qu'on devait poser hier. Pour ce qui est du camp du oui, on espère bien qu'ils seront avec nous le jour venu, effectivement. C'est une formation qui se dit indépendantiste, alors on souhaite bien les voir se ranger du côté du oui lorsqu'on fera la consultation, si les Québécois nous font confiance pour la prochaine élection.
Donc, ce discours inaugural de François Legault, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez appris des choses? Nous, on n'a pas appris grand-chose dans ce discours-là. On dirait que tout avait été un peu coulé, communiqué dans les jours précédents, les semaines précédentes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans le discours hier?
Ben non, on n'a rien appris de neuf. Vous avez raison. On avait déjà télégraphié tous les messages, les principales priorités du gouvernement. Essentiellement, ce qu'on en retire, c'est que le gouvernement fait avec nous le constat de l'échec de la gouvernance caquiste. Il fait un exercice de communication, essentiellement en disant qu'il va réparer ce qu'il a cassé. Mais à l'heure actuelle, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des Québécoises et Québécois qui aujourd'hui pensent que la prochaine année, le gouvernement va pouvoir corriger le tir sur à peu près tous les sujets, sur des dossiers qu'il n'a pas su régler ou même sur des phénomène qu'il a lui-même contribué à exacerber, à créer au cours des 7 dernières années. Nous, on pense que non. On pense qu'une vaste majorité de la population pense la même chose aussi. Quand il dit, par exemple, il faut changer les façons de faire, faut une nouvelle politique économique, faut réduire la taille de l'État, alors qu'on l'a vu grossir au cours des dernières années. Lorsqu'il dit que bon, l'immigration incontrôlée du fédéral, oui, mais depuis 7 ans, qu'est-ce qu'on a obtenu du fédéral dans la troisième voie qui est proposée par M. Legault? Alors, tout ça, ça tourne un peu en rond. Je pense que la conclusion de plusieurs, en tout cas la nôtre, c'est que c'est pas en misant sur ce gouvernement-là qu'on va changer les choses.
Oui, Mario Dumont parlait dans sa chronique ce matin d'un gouvernement qui va tenter de faire tout en un an ce qu'il aurait dû faire en 4 ans. Concernant les grands oublis dans les priorités, Marois Risquet fait sa liste ce matin. J'aimerais entendre la vôtre. Quels sont les grands oubliés?
Écoutez, je suis content que vous abordiez le sujet. Je ne voulais pas que mes réponses soient trop longues, mais je suis content de pouvoir dire que c'est pas tellement ce qui a été dit, c'est ce qui n'a pas été dit ou abordé ou très succinctement par le premier ministre hier qui nous a déçus. On ne parle pas du tout de la crise du logement comme si elle était résorbée, comme si elle n'existait pas. On n'a pas parlé beaucoup non plus de la capacité de payer des Québécois là, face à l'inflation. On a parlé de la santé uniquement sous l'angle du projet de loi 106 et puis des médecins qui doivent en faire davantage, alors que les enjeux sur l'accès aux soins et à la santé pour la population générale, mais pour les aînés, pour les familles, dépassent tellement plus largement cette simple question-là, qui est quand même problématique, qui est dans l'actualité, mais je me surprenais de voir que la question était résumée, la question de l'accès aux soins de santé était résumée à la bataille avec les médecins. La question de l'éducation, parce qu'on lui a reproché à la fin de son discours, présentant son remaniement, de ne pas avoir parlé d'éducation alors que c'était sa priorité annoncée depuis 7 ans. Mais là, il l'a mentionné hier. Ça ne veut pas dire que ma priorité, c'est pas l'éducation, mais qu'allez-vous faire? Absolument aucune idée. Les grandes mesures qu'il a annoncées, ça touche pas l'itinérance non plus, les services sociaux, mais les grandes mesures qu'il a voulu marteler, Ce sont essentiellement des vœux pieux. J'ai demandé à tel ministre de se pencher sur un dossier. Je souhaite que l'autre ministre fasse le travail. Voici la directive que je donne au troisième ministre. On attend les résultats depuis 7 ans, puis je pense qu'on va les attendre encore pendant plusieurs mois.
C'est vrai qu'il a annoncé à quelques reprises qu'il allait éventuellement faire quelque chose. Il annonçait qu'il avait demandé qu'on annonce quelque chose. On verra s'il y a plus de précisions dans les prochaines
semaines
concret, là-dessus.
Oui.
Sur la santé, je veux vous entendre parce que il y a une réforme qui est en cours à l'heure actuelle. Il y a l'Agence Santé Québec qui a été créée, puis les gens sont un peu découragés, je pense, face au système de santé. J'aimerais ça savoir, dans les premiers mois d'un gouvernement péquiste, qu'est-ce qu'on ferait concrètement et précisément en matière de santé? Est-ce qu'on garde l'Agence Santé Québec? On continue avec les mêmes structures? Quelles mesures on met en place dans les 3 premiers mois, là, disons que vous êtes ministre de la Santé en 2026?
Écoutez, mais je suis content que vous abordiez la santé. C'est un sujet qui est préoccupant pour une vaste majorité de la population québécoise. Et c'est mon dossier depuis 6 ans. Et je vous le disais qu'hier, bien, juste en guise d'introduction, ce qui était absolument fascinant, c'est de voir, pas nécessairement hier, mais au cours des derniers jours, que l'une des compressions budgétaires qui est annoncée par le gouvernement, c'est de couper les dépenses dans les nouveaux Top Gun qu'il vient d'embaucher pour, en créant Santé Québec.
Oui, l'image frappe. On défait ce qu'on a fait.
C'est ça. Alors, nous, le chef s'est déjà prononcé en disant, c'est toujours le cas que Santé Québec était en examen, que cette structure-là, on ne la jugeait vraiment pas pertinente, mais qu'on allait voir si il était plus efficace de corriger la façon dont ça fonctionne, là où ça fait mal. Par exemple, dans la centralisation là, exacerbée qu'on a fait grâce à cette nouvelle créature-là et l'augmentation, évidemment, de la fonction publique, ou est-ce que on pouvait carrément l'abolir? Parce que ce qu'on veut surtout éviter, c'est de lancer une autre nouvelle réforme, sachant que tous les employés et même les usagers du système de santé ont été traumatisés par la réforme Barrette de 2015 et des années suivantes.
Donc, on la garde, l'agence.
Et encore une fois, celle-ci. Non, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on va juger, entre deux mots, quel est le moindre, parce que vous imaginez qu'avec la fusion des établissements en un seul organisme, une agence qui est maintenant l'employeur unique. Si on décide de faire exploser ça, puis qu'on recrée des conseils d'administration, puis des unités spécifiques, puis des comptabilités différentes, puis est-ce que ça, c'est ce que les gens veulent, puis est-ce que ça va donner de meilleurs résultats sur le terrain? Parce que c'est ce que ça voudrait dire probablement aussi, là. Alors, c'est trouver la mécanique qui fait en sorte qu'on ne perd pas notre temps dans la démolition des structures existantes, alors que le gouvernement aura perdu son temps en créant de nouvelles.
Donc, je comprends que votre réponse, c'est « on verra ».
Bien, en fait, plus spécifiquement que ça, je vais vous le dire, là, on va redonner un pouvoir décisionnel aux gestionnaires de terrain à tous les niveaux pour que des gens soient imputables puis qu'ils soient aussi responsables de l'amélioration des soins sur le terrain. Ça, c'est la première orientation qui est claire, précise et qui actuellement n'est pas appliquée, c'est-à-dire que tout le monde dépend de tout le monde jusqu'à Mme Biron en haut de la pyramide. C'est pour ça qu'il se passe rien et que personne n'est imputable puis qu'on continue de tourner en rond. L'autre élément, c'est la porte d'entrée vers les soins de santé. Il faut l'interdisciplinarité, il faut vraiment que ça ait un sens. C'est les portes d'entrée des CLSC sur lesquelles on va miser. Et ça va être un changement majeur parce qu'aujourd'hui, on ferme les CLSC à travers les régions du Québec puis un peu partout. Et on crée des cliniques privées puis on veut créer des mini-hôpitaux privés. Et c'est pas le sens de l'action qu'on veut apporter, là. C'est tout le contraire de la centralisation actuelle. On veut l'imputabilité, mais également une décentralisation puis des gens qui sont responsables sur le terrain d'améliorer les choses. Parce qu'il n'y a pas une solution unique, une panacée pour l'ensemble du réseau. Là. Les réalités ne sont pas les mêmes dans chaque Maisonneuve que sur la Côte-Nord, en Abitibi ou aux Îles-de-la-Madeleine. Il faut à un moment donné que ça se traduise par des pouvoirs décisionnels sur le terrain.
Joël Arsenault est député des Îles-de-la-Madeleine.
La communication. On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102. Vous restez très bien par texto 418-971-1021. N'oubliez pas, envoyez-nous vos questions pour demain. Moi et Antonine, on va faire une petite portion de questions du public et il y a une belle réaction ici. Les agences vont servir à enlever les syndicats dans les métiers avec le grand ménage annoncé par la CAQ. Les employés qui vont perdre leur emploi dans la fonction publique vont se tourner vers les agences ou les emplois non syndiqués. Plusieurs ont déjà été approchés pour combler des postes dans les agences. On parle évidemment, on fait référence à l'Agence Santé Québec. Ici, merci beaucoup à cet auditeur ou cette auditrice de nous avoir écrit. Mathias, deux petites manchettes avant qu'on passe à Lambert Drainville.
Oui, ben on a beaucoup parlé de politique, mais un secteur qui brasse énormément, c'est les faits divers aujourd'hui.
Okay, oui.
Puis justement, aujourd'hui, à 11h, dans un Starbucks à Laval, l'un des plus importants bandits de Laval a été abattu en plein jour. Vraiment, plusieurs hommes qui ont justement utilisé un pistolet mitrailleur pour abattre l'homme. Il a été atteint par plusieurs coups de feu à de multiples reprises. Cet homme se nommait Chara Lambos Tologu, un homme de 40 ans. Donc, justement, c'est à la suite de ces projectiles, des services d'urgence ont tenté de le réanimer sans succès. Toutefois, le décès n'est pas toujours pas confirmé par les autorités. Et également, un homme de Lévis qui s'est dirigé vers l'Haïti pour des activités terroristes a été reconnu coupable aujourd'hui. Donc, on parle de Gérald Nicolas qui est condamné à 5 ans d'emprisonnement, justement. Le jugement qui a été rendu aujourd'hui, c'est un procès qui a duré 3 semaines qui a mis le délinquant de 54 ans devant le jury. Et c'est finalement ça qui a été ressorti. Et je termine avec Bruno Marchand qui a nommé son nouveau candidat pour remplacer David Weiser ce matin comme candidat dans le district du Plateau. On parle de Gabriel Dussablon, un jeune étudiant à l'Université Laval dans une maîtrise en agroéconomie, donc qui sera son nouveau candidat.
Oui, exactement. Et la perte de David Weiser dans du Plateau fait très mal à l'équipe de Bruno Marchand parce que du côté de Leadership Québec, c'est une entrepreneur très connue de la région de Québec qui se présente dans ce district. C'est Catherine Gagné, fondatrice du Festibiaire de Québec. Alors, ça donne vraiment l'avantage à Leadership Québec du côté du Plateau. On s'en va rejoindre Lambert Drainville pour commenter en premier lieu le discours de Rocky François Legault. Lambert, comment ça va?
Bonjour, messieurs. Très content de vous retrouver.
Hey, nous autres aussi, on est super contents. Comment t'as trouvé notre Rocky hier? Il a fait 6 une couple de personnes.
Oui, c'est ça. On commence à avoir une petite idée de sa stratégie pour essayer de remonter dans les sondages d'ici, évidemment, à l'élection de 2026. Ce sera pas facile, mais
non.
Bon, comme on a vu, effectivement, là, il semble vouloir se battre. Les oppositions aussi. PSPP a repartagé un clip de quand il s'était présenté dans Provo il y a une couple d'années où ce que lui-même...
Ah oui, avec le manteau et la tuque à la Rocky en train de courir dehors dans la neige.
Exact. Ruba Gazal aussi a repartagé. Mais on sent que les oppositions, eux autres aussi, là, sentent la bête blessée, sentent le sang et sont prêtes également à en découdre. Disons que ça va brasser dans cette dernière année qui nous mène à l'élection du 5 octobre 2026. Et justement, dans son discours, on a pu, tu sais, c'était beaucoup de réchauffé. Il n'y en a pas beaucoup d'éléments nouveaux. Par contre, un élément qu'on retient, c'est que le premier ministre a clairement identifié qui vont être ses adversaires d'ici aux élections, en commençant par...
Monter au Québec, c'est...
Lambert, nous, on habite à Québec. Toi, tu as la chance d'habiter à Montréal. Est-ce que l'islam radical est un gros problème?
Est-ce que c'est un gros problème? C'est ça la question. Est-ce que c'est un problème? Ben, écoute, T'sais, on a entendu parler des prières de rue. Je pense que c'est un phénomène qui est de plus en plus... J'ai juste fait une petite recherche sur X avant de m'en venir sur le réseau social.
Ben oui, vas-y.
Les prières de rue. Puis on a quand même quelques exemples à Montréal dans les dernières semaines, derniers mois. Ben franchement, c'est un phénomène quand même qui prend de l'ampleur à la grandeur de la planète, là, de ce que ma petite recherche m'a permis de voir.
En effet, très présent sur le continent européen que j'ai vu.
Oui, exactement. Donc, on a ça qui fait de plus en plus parler. On a évidemment, là, quand le premier ministre s'est fait demander aujourd'hui à quoi il faisait référence explicitement, ben il a parlé évidemment de la situation à l'école Bedford.
Mm-hmm.
Où on se rappellera, tu avais, disons, un clan dominant de professeurs d'origine maghrébine qui humiliait certains élèves, refusait, par exemple, que les jeunes filles participent à des cours d'éducation physique. Le PM parle d'un assaut, et ça, c'est quand même un mot lourd de sens. Le ministre Roberge en a rajouté il y a quelques heures.
Oui, il a dit « Réveillez-vous! »
Oui, c'est ça. A dit aux Québécois de se réveiller. Et donc, la question, Jeff, c'est est-ce que le gouvernement il va un peu fort en café en utilisant le mot « assaut » en fomentant un petit peu la peur là, pour gagner des points politiques, sans que c'est un terreau fertile, clairement, pour eux d'ici aux élections. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses qu'il y a un assaut?
Bien, moi, tantôt, justement, je me suis positionné avec Antonine Iaccarini, puis j'ai dit, je crois pas qu'on soit rendu à l'étape de l'assaut. Oui, il y a eu la situation Bedford. Oui, il y a eu, après ça, quatre autres écoles qu'on a regardées dans la région de Montréal. Mais je pense que juste le fait que la population soit sensibilisée, bien, il va y avoir de plus en plus de dénonciations. Et là, ça sera aux autorités à faire le travail s'il y a des discours haineux ou des discours qui vont à l'encontre de nos valeurs. C'est mon positionnement. Peut-être qu'il peut paraître faible pour certaines personnes, mais moi, je vais plus dans la bienveillance que de dire « OK, il y a un assaut, puis c'est nous contre l'islam ».
Ouais, je suis un petit peu à la même place. Tu sais, il y avait le rapport des vérifications des mesures prévues à la loi de la laïcité qui avait été commandé par le ministre Drainville quand il était ministre de l'Éducation, qui était sorti en janvier 2025, au fond, qui suivait le Bedford, qui faisait le tour des écoles dont tu viens de parler. Puis, tu sais, au-delà des exemples que j'ai déjà mentionnés au niveau des petites filles dans les cours d'éducation physique, bien, tu sais, tu avais des exemples d'écoles, d'ailleurs, dans la région de Québec, bien important de le mentionner, là, ça touchait des écoles dans la région de Québec, Lévis, Laval et Montréal. Ça se résume pas mal à ça, mais on parlait de voile intégrale en classe, autant de professeurs qui ne respectaient pas la loi sur la laïcité, qui gardaient leur voile en classe, ou des élèves entièrement couvertes dont on ne pouvait pas voir l'identité, le refus de parler à des enseignants masculins, l'éducation physique, j'en ai parlé, au niveau du refus de participer à des cours d'éduc, mais aussi des élèves qui participaient, oui, mais avec des habits traditionnels absolument pas conformes au code vestimentaire T-shirts, shorts, espadrilles. Il y a de l'autocensure aussi, qui est un exemple qui a fait jaser des profs qui refusent d'aborder certains sujets comme l'égalité homme-femme, la sexualité. Fait que tu sais, je suis d'accord avec toi, bref. Je suis pas sûr que c'est un assaut au point où on en est, mais si on juge que la laïcité est une valeur importante pour nous, et les plus récents chiffres parlent d'environ 70 % des Québécois pour qui c'est le cas, eh bien moi, je suis d'accord qu'il faut pas attendre à ce que ce phénomène-là soit beaucoup plus grave,
ouais,
beaucoup plus répandu. Il faut agir maintenant, rectifier le tir maintenant. Il y a eu des rapports qui sont sortis. Je pense que le gouvernement est déjà en action. Et donc, est-ce que le gouvernement il va fort en café? Oui, je pense que le gouvernement il va fort en café. Mais comme j'ai dit en commençant, au point où ils en sont, ils vont tirer sur tout ce qui bouge parce qu'ils n'ont plus rien à perdre puis ils veulent essayer de remonter la pente.
Et parlant de tirer sur tout ce qui bouge, un crochet de droite à l'islam et là, on a sorti un crochet de gauche au syndicat.
Yes, sir, qui serait vraiment l'autre, disons, adversaire clairement identifié dans le discours d'hier. Le PM et Jean Boulay, son ministre du Travail, veut réformer le régime syndical. Évidemment, manque pas une occasion de parler des votes dans les assemblées syndicales qui se tiennent aux petites heures du matin.
Oui, puis dans ce que je sais, moi, c'est qu'il y a encore une couple de goons qui se promènent dans les assemblées pour faire en sorte que le vote aille du bon bord, là.
Ben, on a toujours un peu cette impression-là, hein, quand on parle des syndicats, la FTQ, on mentionne évidemment toujours l'usage des cotisations syndicales pour des camions, pour des scotch, pour des repas très, très luxueux.
Dubaï. Des
voyages à Dubaï, même pour, écoute, contester des lois comme la loi 21, justement, sur la laïcité qui a été passée par l'Assemblée nationale de façon très démocratique et qui est généralement fait pas mal l'unanimité au Québec. Puis encore une fois, le premier ministre et le gouvernement sentent que c'est un terreau fertile pour eux de s'en prendre aux syndicats. Et un récent sondage du Conseil du patronat qui disait qu'une majorité de la population, 57 % plus spécifiquement, voulait soit moderniser ou renforcer les lois sur les relations de travail pour protéger les services à la population en cas de grève. Tu vois que c'est pas sorti d'un chapeau pourquoi les syndicats ont été identifiés par le gouvernement comme un endroit où ils peuvent marquer des points.
Lambert, est-ce que les syndicats ont eux-mêmes à blâmer en s'auto-proclamant un contre-pouvoir? T'sais, j'écoutais Magali Picard sur les ondes de Mario Dumont. Là. Ah, vous savez qui va combattre les grandes pétrolières si nous, la FTQ, on n'est pas à Dubaï? Il me semble que c'est se donner de l'importance pas à peu près, ça.
Ben moi, tu sais, puis en tout cas, moi, Jeff, je trouve qu'ils ont perdu. Puis moi, je suis pro la mission première des syndicats, défendre les travailleurs, défendre les droits des travailleurs. Mais entre toi et moi, on est bien loin. On a passé depuis longtemps à l'étape tabarouette des gars dans les usines avec la suie d'en face.
Mais c'est ça, là.
Quand des esclaves là, de propriétaires anglophones, on est ailleurs. Puis des fois, je trouve qu'ils sont rendus beaucoup plus pratiquement des partis politiques en soi, là, ouais. Qui font de la politique, qui disaient lors de leur sortie dimanche, tous les gros syndicats ensemble, écoutez, on voit clairement que le gouvernement est hyper impopulaire, puis il cherche n'importe quelle façon justement de s'en sortir, puis on les laissera pas faire. Écoute, il y a des entités qui sont responsables de tenir ce genre de discours-là, puis ça s'appelle les partis de l'opposition, et ces députés-là sont élus. Mm-hmm. Vous autres, vous n'êtes pas élus. Vous représentez vos membres, et moi, j'ai l'impression qu'au fil du temps, ils ont perdu cette mission-là, que les gens que vous représentez, ce sont vos membres, ouais. Point à la ligne, et non pas la population en général.
Je suis exactement au même endroit que toi. Si je viens de parler de deux crochets, ça va faire le pont à notre deuxième sujet également. Ouais. Uppercut à nos médecins, encore une fois, durant ce discours-là. Et là, la fameuse étude du HEC que tu nous parlais sur le travail des médecins a été publiée lundi. Donc, parle-nous de cette étude-là aussi, de cet uppercut du gouvernement.
Bien, c'est ça. On a parlé, tu sais, les priorités du gouvernement, on en a assez parlé. Quand je parlais de la laïcité, c'était le côté identitaire. Quand je parle des syndicats, c'est le côté, justement, de faire le ménage de l'efficacité de l'État. Et dans les syndicats, inclut les syndicats de médecins. Et donc, le premier ministre, encore dans son discours hier, a répété qu'il ne reculerait pas sur son projet de loi visant à changer la façon dont les médecins sont payés. Pour avoir un portrait plus juste de l'état de la situation, je t'avais parlé la semaine dernière de l'étude du HEC qui date du printemps dernier. Et lundi, on a eu une mise à jour au fond de cette étude-là. Le HEC ont regardé leurs chiffres, ont fait des doubles vérifications. Je te rappelle que je t'avais dit qu'au fond, l'étude disait que de 2010 à 2022, il y avait eu des hausses très, très importantes en termes de salaire, des hausses aussi du nombre de médecins en termes de nombre.
Oui.
Mais le nombre d'heures travaillées par ces médecins-là avait diminué et l'offre de services médicaux également. Donc, ouais, plus les Québécois payent pour les médecins, moins en ont pour leur argent.
Exactement. Et ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'un pourcentage de médecins, et là, j'y vais de mémoire, entre 15 à 20 % qui travaillent plus d'heures que prévu. Mais malheureusement, ouais, on est tout près du 30 % qui ne travaillent pas le nombre d'heures minimales. Fait que c'est ce qui vient débalancer cette courbe-là.
Exact. Puis c'est pour ça que ça explique un petit peu comment ça qu'on a l'impression que dans la population, le gouvernement et les syndicats tiennent deux discours complètement différents. Tu as vraiment un pourcentage d'à peu près, laisse-moi juste regarder, c'est un grand nombre de médecins qui offrent beaucoup de services à la population. C'est à peu près 21,6 %, donc un médecin sur cinq qui est un bourreau de travail. Mais également, à peu près dans les mêmes proportions, un médecin sur cinq qui a une pratique à faible intensité. Ça veut dire qu'il travaille, il prend plus que deux mois de congé par année ou deux mois qui ne travaille pas, qui n'offre pas de services médicaux. Et donc, cette mise à jour de l'étude vient dire que si on les faisait travailler à temps plein, ces médecins-là, s'ils travaillaient plus que 200 jours par année, on augmenterait de 1000 le nombre de médecins de famille à temps plein, de 1200 le nombre de médecins spécialistes à temps plein, et c'est donc l'équivalent de 2300 médecins qui s'ajouteraient à ceux qui travaillent déjà à temps plein. C'est une hausse de 15 % des médecins qui travaillent à temps plein au Québec. Ça permettrait aux Québécois de bénéficier de 6,2 millions de visites de plus auprès de leurs médecins chaque année. Aïe.
Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je me demande toujours, moi, pourquoi les gens à l'interne de la fédération ne disent pas à ces médecins-là, hey, « Écoute, travaille plus parce que tu es en train de me coûter des indicateurs de performance, tu es en train de me coûter un projet de loi. » Pourquoi ils ne sont pas capables de régler ça à l'interne? Et là, là-dessus, je comprends qu'il va y avoir des cas d'exception. Marc Rangé, excellent chroniqueur syndical pour nous, nous disait, hey, « Moi, mon frère, il a 67 ans, travaille encore comme médecin, mais il sort d'une opération cerveau. » Fait qu'il prend juste la moitié de ses clientèles. Hey, ça, c'est-tu quoi? Merci de travailler encore à 67 ans malgré l'opération au cerveau, puis merci d'en prendre la moitié. Mais les médecins là, qui n'en prennent pas assez, là, pourquoi ça ne se règle pas à l'interne? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui leur dit « Hey, man, travaille plus, t'es en train de me mettre dans le trouble. »
On en a déjà parlé, Jeff, c'est les travailleurs autonomes. Tu comprends? C'est les travailleurs autonomes, ils déterminent leur horaire, ils déterminent leur intensité de pratique, ils déterminent dans quel endroit est-ce qu'ils pratiquent. Faut mentionner qu'il y a quand même une partie de ces médecins-là qui sont absents pour des raisons qui font du sens, le congé de maternité, les médecins en début ou en fin de carrière, justement. Tu parlais de ton médecin de 67 ans. Il y en a probablement plusieurs. En fait, ça le dit même dans l'étude que la majorité de ces médecins-là, ce 20%-là qui travaillent moins, ben c'est des médecins qui travaillent en CLSC, mais surtout des médecins qui ont entre 55 et 64 ans. Fait que, tu sais, probablement que celui dont tu parlais fait partie de cette statistique-là. Après ça, ben, tu sais, c'est justement ça. Est-ce qu'on est prêt en tant que... Est-ce que devant les défis énormes qu'on a dans le réseau de la santé, on en est rendu à pousser vraiment ces médecins-là à la limite? Le gouvernement semble dire que oui. Ces médecins-là vont probablement dire « Écoute, moi, là, mon gars, là, j'en donne déjà plus que je pensais, puis je pourrais partir à la retraite demain matin, puis possiblement qu'il y en a qui vont le faire si jamais le gouvernement continue avec son projet de loi. Mais ça explique un petit peu, je trouve que ça donne un beau portrait de comment, tu sais, quand on écoute les deux côtés, comment ça se fait qu'on a l'impression qu'ils disent, les deux disent deux affaires complètement différentes. Bien, la vérité, c'est qu'effectivement, dans tous les médecins au Québec, t'en as qui sont des bourreaux de travail, mais t'en as une proportion également, à peu près équivalente, qui ne travaillent pas à temps plein.
Je termine là-dessus, Lambert. Est-ce que tu crois que la médiation qu'on a cette semaine va porter fruit et va permettre de mettre une trêve pour de réelles négociations?
Non.
Non, hein, moi non plus. On est trop écartés. Hein. Puis encore que François Legault les ait piqués dans le discours hier, j'ai dit... Quelle mauvaise stratégie. On est en plein processus de négociation, puis Hawaï, on replante un clou.
Ben, Jeff, on vient d'en parler. Crochet de droite, les islamistes radicaux, crochet de gauche, les syndicats, uppercut,
les médecins.
Les médecins.
Et voilà. Voilà. C'est ce que François Legault a fait. Lambert Drainville, tu sais que c'est toujours un bonheur de te parler.
C'est vraiment chouette. J'ai beaucoup de plaisir avec vous.
Oh oui. On se parle vendredi. Je sais que tu vas écouter le face-à-face demain sur nos ondes entre Sam Hamad et Bruno Marchand. Fait qu'on fait le tour de ça vendredi ensemble, c'est clair.
Ouais. Leadership Québec.
Ah, oh, je te promets, vendredi, on commence avec la chanson. Salut, Lambert Drainville. Bonne fin de journée. Salut. De Lambert Drainville, on saute à Carl Latulippe. Qui est Carl Latulippe? C'est le vice-président Sainte-Foy et Beauport-Nissan. On vit une très grande problématique du côté de Beauport et Sainte-Foy-Nissan. Pourquoi? Parce qu'on a eu des gros travaux qui empêchent le monde d'avoir accès au commerce. Puis là, on a des travaux encore, mais pourquoi? Pour une piste cyclable, Carl Latulippe, comment vas-tu?
Très bien, et vous?
Ça va super bien. Merci, Carl, de te rendre disponible. Là, explique-moi ça. Là. Toi, là, des travaux chez vous pour un viaduc qui empêche le monde d'avoir accès à votre superbe commerce à Sainte-Foy en passant. Puis là, ben, on fait une piste cyclable.
Premièrement, là, nous, on ne veut pas chialer contre les employés de la ville, mais plutôt se questionner puis... Pensez aux gens qui ont pris ces décisions-là pour coordonner les travaux en même temps. En fait, c'est que là, on a été fermé pratiquement une partie de l'été parce que les gens d'Hydro-Québec avaient des travaux à faire sur l'avenue Watt. Et maintenant, c'est la ville qui décide de nous enclaver de l'autre côté sur Blaise Pascal, mais pour une piste cyclable qui... c'est peut-être mon avis, mais je pense que ça aurait pu être repoussé.
Oui, mais c'est ça. Vous devez être découragé parce que là, tu es obligé de fermer en pleine période estivale ou, corrige-moi si je me trompe, mais il y a quand même un achalandage l'été. Il fait beau, les gens vont magasiner, sont en vacances. Puis là, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas accès à ton commerce en pleine période d'automne. Ça doit être décourageant, faire de la business à Québec.
Tu sais, on paye pas loin d'un demi-million de taxes annuellement.
Ouais.
Fait que je pense qu'on serait en mesure d'avoir un peu, au moins, un aide quand il y a des travaux à faire, au moins aussi nous aviser, parce que, tu sais, au début de l'été, quand l'hydro s'est installé, ils ont même mis une roulotte de chantier sur notre terrain.
Puis vous n'aviez pas été avisé. Fait qu'on prend votre terrain en otage, on vous avise pas. On fait des travaux qui vont restreindre l'accès à votre commerce, on vous avise pas. Et Carl, je le répète, vous payez plus de 500 000 $ de taxes municipales par année.
Exact. Je pense qu'on aurait droit à avoir un petit peu de coordination entre les différents paliers là, qui s'occupent des travaux. Je pense que ça serait la moindre des choses. Mm-hmm.
Là, est-ce que vous avez des recours? Est-ce que vous avez tenté de parler à des gens à la ville? Qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Bon, premièrement, on a déposé une plainte là le 30 septembre qu'on n'a pas eu de retour encore. Honnêtement, je m'attends pas à avoir un retour rapidement. Là. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes priorités. Puis pour eux autres, je pense que c'est pas une priorité que nos commerces aillent bien.
Oui, c'est ça. Hein? T'es fâché contre l'administration qui est là présentement, l'administration Marchand.
Oui, parce que on est laissé à nous autres mêmes. Tu sais, moi, je veux pas devenir la nouvelle route de l'Église à Sainte-Foy. Là,
hey, non! Je te comprends tellement.
Je compatis tellement avec les commerces qui ont été enclavés pendant plusieurs années. Ça ne me tente pas qu'on vive la même chose. Là.
C'est ça. Puis Carl, pour terminer, à Sainte-Foy, Nissan, vous avez ouvert votre commerce quoi, il y a à peu près 3-4 ans, là, j'y vais de mémoire. Puis,
on a déménagé durant la COVID.
Ah, c'est ça, exactement. C'est ce que j'avais en mémoire. Puis ça vous a quand même coûté une beurrée de vous installer là.
Ben, c'est des investissements qui sont énormes. À l'époque, on parlait d'investissements de tout près de 20 millions. Fait que c'est sûr qu'on a des entreprises qui sont solides, mais on peut pas rester à moitié ouvert durant plusieurs semaines là, par année. Là, c'est pas pensable.
Exactement. Carl Latulippe, il est vice-président au niveau de Sainte-Foy, Beauport, Nissan. Écoute, on fait suivre l'entrevue au bureau du maire, Carl. On est avec vous là-dedans. Alors, je sais pas, vous êtes tellement des entrepreneurs géniaux pour la région de Québec. Puis vous êtes exactement le style d'entrepreneur que je parlais. Je sais que vous redonnez énormément dans la communauté, notamment dans la famille des patrons. J'ai eu la chance justement de travailler avec vous pour la soirée philanthropique au patron Charlebourg. Alors, continuez votre excellent travail. On est avec vous là-dedans.
Super apprécié. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir, Carl. Salut. Merci. Pas de sens, Mathias, pareil.
Hey, ben non, mais...
20 millions d'investissements, 500 000 en taxes municipales. On prend même pas la peine de t'aviser.
De t'envoyer un courriel, de t'appeler. C'est décevant, honnêtement.
Oui.
Puis... la frustration que ces commerçants-là doivent ressentir face justement à l'administration en place, de dire « Hey, je déménage, j'investis beaucoup de mon temps, je paye un gros montant en taxes, puis c'est comme ça qu'on me remercie, c'est comme ça qu'on me dit « Hey, merci de faire vivre en partie notre ville, merci de participer à l'économie de notre ville, c'est comme ça qu'on te remercie. » C'est sûr que ça doit être très, très frustrant.
Ah, c'est frustrant, pas à peu près. Alors, c'est comme ça que l'administration Marchand traite les commerçants, les amis. Là, le vote est le 2 novembre prochain. On fait une courte pause et par la suite, Mathias, c'était à la une de la presse ce matin. Dossier erreur judiciaire sur Daniel Jolivet, accusé d'un quadruple meurtre. Et 33 ans plus tard, il reçoit une lettre du procureur lui disant « Ouais, on s'est trompé. »
C'est fou, c'est fou. C'est super intéressant comme dossier. Je me suis entretenu avec Philippe Cloutier, avocat criminaliste. Ce qui est intéressant, c'est que justement, le directeur a envoyé la lettre pour dire « Ah, il y a probablement eu erreur judiciaire sur ton cas. » C'est un cas qui remonte à 1992. Pourtant, l'homme est toujours détenu présentement.
Ben oui, donc... c'est ce qui fait pas de sens. Alors, on parle de ceci justement après la courte pause. Vous êtes à Boulevard 101, l'émission « On en jase ».
Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Ben non, Pascal CV est en train de monter le Kilimanjaro. On y parle demain matin dans Marceau le matin. Ils sont rendus à sa 4e journée d'ascension. Également, vous savez qu'après nous, c'est le retour de Gravel qui suit avec Denis Audrey Véro. Marceau le soir avec l'excellent ex-enquêteur du SPVQ, Roger Ferland, ce soir. Et entre Marceau le matin et nous, ben, c'est le point de Max avec Max Larouche. Mathias, on en parlait avant la pause. Daniel Jolivet, un homme emprisonné depuis 1992 en raison d'une possible erreur judiciaire, reconnu coupable du meurtre de 4 personnes, 2 trafiquants de drogue et 2 femmes qui se trouvaient là. Le directeur des poursuites criminelles pénales déclare officiellement qu'il y a des motifs raisonnables de conclure que M. Jolivet n'a pas eu le droit à un procès juste et équitable, et ce, 33 ans après son emprisonnement. C'est un dossier complexe, ça, Mathias?
Hey, c'est pas juste un dossier complexe, c'est un dossier très, très complexe, puis qu'il n'y a pas nécessairement de cas équivalent par le passé. On n'a pas nécessairement vu de cas de ce type-là. Oui, on a vu des erreurs par le passé de la part de différents juges, de différents procès, mais des cas comme ça, on n'en a pas nécessairement vu, puis vous allez vite comprendre pourquoi. Pourquoi on a le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé que ça, il pourrait avoir, en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait une erreur judiciaire. On n'a pas tous les détails, mais il a été démontré notamment que le procureur de la poursuite à l'époque, Jacques Potier, a caché plusieurs preuves essentielles à la défense. Également, un autre détail bizarre, le dossier de la poursuite a mystérieusement disparu entre la fin du procès en 1994 et le jugement de la Cour suprême, parce que c'est la Cour suprême qui a apporté le jugement en 2000. Donc ça brasse les preuves, ça rend le tout plus difficile. Mais pour bien comprendre ce dossier-là, faut comprendre le processus des différents procès qui ont eu lieu, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et justement, je me suis entretenu avec Philippe Cloutier, avocat criminaliste, qui m'a un peu résumé le tout.
C'est particulier dans cette affaire-là parce qu'il y a un premier procès qui a eu lieu. Il a été déclaré coupable suivant son premier procès. Par la suite, la Cour d'appel a entendu cette affaire-là, et là, la Cour d'appel a cassé la condamnation de monsieur. Donc, je comprends qu'il a été en liberté pendant plusieurs années. Mais par la suite, la Cour suprême a entendu cette affaire-là et a de nouveau réordonné la détention de monsieur et en est venu à la conclusion là, que l'infraction était prouvée. Donc, le ministère public, comme vous dites, le DPCP n'a pas le pouvoir en soi de dire « Écoutez, nous, on demande la libération de ce monsieur-là parce que c'est les tribunaux, c'est un juge qui doit ordonner la libération de quelqu'un. » Et là, étant donné que le plus haut tribunal, la Cour suprême, s'est penché sur la question, mais on ne peut pas porter ce dossier-là en appel plus loin. Donc, le seul moyen à ce stade-ci, c'est le ministère de la Justice, le ministre de la Justice au fédéral, qui peut, dans des cas très particuliers, réviser une condamnation d'un individu et d'ordonner la libération d'une personne si on se rend compte qu'effectivement, il y a une erreur judiciaire qui fait en sorte que la condamnation de cet individu-là n'est plus fondée aujourd'hui.
Bon, je comprends qu'on va parler d'un ex-juge, mais Jacques Delisle, l'ex-juge justement reconnu coupable du meurtre de sa femme, bien, ça a été jusqu'aux politiques où justement la ministre fédérale a dit « Hey, on va faire un nouveau procès ». Là, le DPCP avoue qu'ils se sont trompés. Le gouvernement va embarquer là-dedans.
Le gouvernement va embarquer là-dedans, mais le problème, c'est que le gouvernement pourrait pas nécessairement obliger un nouveau procès. Étant donné que c'est la Cour suprême qui a rendu le jugement, la décision ne peut pas être portée en appel parce que c'est la Cour la plus haute, l'instance judiciaire la plus haute qui a rendu le jugement. Après ça, on ne peut pas aller porter la cause en appel au-dessus. C'est ça qui rend vraiment le dossier particulier. Mais c'est sûr, ça paraîtrait très mal à partir du moment où on a donné ça au gouvernement. On a dit hey, « ce cas-là, c'est probablement une erreur judiciaire ». Ça paraît très, très mal que le gouvernement n'intervienne pas. Et c'est d'ailleurs, Philippe Cloutier pense, Maître Cloutier pense d'ailleurs très similairement.
Même moi, j'ai de la misère à répondre à cette question-là dans la mesure où on a très peu de précédents. Donc, comment le gouvernement va réagir face à ça? Ça reste imprécis à l'heure actuelle, mais avec un statement aussi puissant du DPCP, qui est quand même les autorités qui ont le devoir de prouver la culpabilité d'un individu, si le DPCP lève la main et vous dit « Écoutez, il semble avoir une erreur, je crois que le gouvernement ne peut pas être passif face à une telle déclaration et on doit étudier avec beaucoup de minutie cette affaire-là et le cas échéant, ben, si c'est ce que ça nécessite, ordonner évidemment la libération de cinq.
Je le vois-tu trop simpliste où je me dis, le DPCP dit « j'ai fait une erreur ». Écoute, on enlève toute trace de ça à M. Jolivet. On le libère, on lui dit « je m'excuse », puis on paye les millions qui vont nous poursuivre au civil. C'est moi qui ai une pensée trop simple?
Ben, oui puis non. Dans un certain sens, c'est ça qui paraît très logique, mais en même temps, notre système judiciaire est tellement complexe, puis il y a tellement de barrières, puis ces barrières-là sont quand même là pour de bonnes raisons. Mais il y a une chose qui est très intéressante. T'as dit, on efface toutes les traces du crime. On efface son casier judiciaire. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais l'homme est libéré par le gouvernement, il serait pas nécessairement acquitté pour autant.
OK. On écoute Philippe Cloutier?
Oui.
Le verdict de culpabilité a été maintenu par la Cour suprême. Donc, monsieur n'est pas acquitté. Monsieur, à moins qu'on ordonne un nouveau procès, et je ne vois pas comment, de quelle façon on peut faire ça, mais monsieur ne serait pas acquitté. Donc, il y aurait un processus de révision. Quelle serait la conclusion du gouvernement suite à ça? Je ne suis pas en mesure non plus de fournir une réponse, mais à l'heure actuelle, c'est un juge qui peut ordonner un acquittement. Et pour l'instant, le monsieur ne serait pas entendu par un juge. C'est un pouvoir gouvernemental dans lequel on ordonnerait la libération de cet individu-là en fonction d'une nouvelle analyse, d'une analyse en fonction de faits nouveaux ou d'une analyse plus minutieuse du dossier.
C'est complètement terrible ce qui arrive à Daniel Jolivet. Puis là, je comprends, là, dans l'article de la presse, on parle que bon, c'est un adolescent, jeune adulte à problème, traîné avec des gangs, tout le kit, mais s'il n'a pas commis le meurtre, il l'a pas commis.
Oui, non, mais c'est ça. Puis si en plus le rapport dit non, il a probablement pas commis ces meurtres-là, parce que c'est plusieurs meurtres, ben là, on embarque dans un cas problématique. Mais en même temps, présentement, c'est vrai que la Cour suprême, c'est le niveau ultime de jugement. Tu ne peux pas aller au-dessus de ça. Donc, dans un dossier comme ça, comment que le ministère de la Justice va pouvoir gérer tout ça du côté fédéral? Ce qui est très intéressant également, c'est de savoir que Monsieur Jolivet aurait pu recevoir une libération conditionnelle après 25 ans.
Oui, mais là, il l'a pas reçu parce qu'il avoue pas son crime, mais c'est parce qu'il n'en a jamais fait de crime.
Exact. Parce que c'est une des conditions de reconnaître sa responsabilité
là,
pour avoir
la libération.
Exactement.
Etc., là.
Mais là, du côté de Monsieur Jolivet, on dit « je n'ai pas commis ce crime-là », puis même après 32 ans, on dit « je n'ai pas commis ce crime-là ». Mais le problème, c'est que là, on dit « ben, il a probablement pas commis non plus ».
Mais c'est ça, t'sais, moi, en tout cas, c'est moi qui ai une vision somme toute trop simple de la situation, mais le DPCP reconnaît qu'il y a eu erreur. Lui, il a dit « je l'ai jamais fait ». Ben, M. Jolivet, savez-vous quoi? On retourne en société, puis faites-nous du bien.
Ben, surtout après un si grand nombre d'années d'emprisonnement. Sa vie a été détruite par ça.
Oui.
C'est complètement fou.
Complètement fou. Mathias Surcotte, merci pour cet excellent dossier. C'était super intéressant. On se revoit demain.
Yes.
Excellent. Demain jeudi, Antonine Iaccarini sera avec nous. On aura également Sol Zanetti qui se lance justement dans la course au co-porte-parole pour Québec solidaire. On va lui parler demain en entrevue. Et Rémi Villemur sera présent également, puis plein d'autres surprises. Comme à l'habitude, le retour de Gravel suit à l'instant même. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de journée et à demain, guys.